Il existe une science qui s'intéresse à la diversité génétique des humains et cette science s'appelle la génétique des populations. Grâce à elle, les chercheurs peuvent comprendre comment les hommes se sont déplacés, comment ils se sont adaptés à de nouvelles conditions de vie, à de nouveaux aliments, comment ils se sont métissés et comment certaines maladies se sont transmises. Un champ très vaste donc sur les relations des humains avec leur environnement. Mes deux invités sont des spécialistes de la génétique des populations. Ils auront beaucoup d'exemples à nous donner sur les différences génétiques entre les hommes et ils répondront à toutes vos questions et vos messages dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, les mauvaises nouvelles qui s'accumulent pour les abeilles.
Oui Mathieu, avec l'ombre d'un retour des pesticides néonicotinoïdes qui planaient depuis ce matin sur les abeilles, on en profite pour faire le point sur les autres menaces avec un apiculteur, Henri Clément.
Stéphanie Texier réalise cette tête au carré qui a été préparée par Lucie Sarfati et Benoît Tonson.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La génétique des populations, ce sera le dossier dans un instant avec mes invités, les généticiens Evelyne Ayer et Louis Quintana. Merci, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Evelyne Ayer, est-ce qu'on peut dire que la génétique humaine, c'est une sorte de nouvelle archéologie pour comprendre l'histoire des peuples ?
Tout à fait, c'est une des manières de retracer l'histoire à partir de l'ADN. C'est fascinant que dans notre ADN d'être humain qui vit à l'heure actuelle, on peut retracer l'histoire des populations et l'histoire de notre espèce. On remonte dans le temps avec l'ADN.
Louis Quintana, merci. On peut aller très loin justement dans l'histoire des hommes pour comprendre par exemple comment nous sommes sortis du berceau africain pour nous déplacer au-delà.
Oui, tout à fait. À partir de l'ADN, on peut mieux comprendre comment on s'est déplacé à travers le monde et on peut même permettre la résurrection de certains hominides.
Ah, on fait des miracles alors.
Qui sont dans notre ADN, comme Néandertal ou d'autres espèces d'hominides archaïques.
Oui. Rien de miraculeux, tout ça. C'est de la science et on en parle avec vous dans un instant pour évoquer les migrations, la santé humaine, les métissages et donc l'environnement avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Le trouble était total dans le milieu de l'apiculture française depuis vendredi. La révélation par nos confrères de RMC d'un document de travail du nouveau gouvernement qui envisageait, entre autres, d'autoriser à nouveau l'usage des néonicotinoïdes, une gamme de pesticides destructeurs pour les ruches et la biodiversité, ainsi que l'épandage aérien, de mesures interdites par la loi de biodiversité. Matignon vient donc de trancher. L'interdiction est maintenue. On fait le point sur la santé des abeilles en France avec vous par téléphone. Henri Clément, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes apiculteur dans les Cévennes, porte-parole oui. De l'Union nationale des apiculteurs de France. Et puis en studio avec nous, Hervé Kempf, comme tous les lundis, avec le magazine Reporter.net, notre partenaire. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Hervé, cette information donc, qui a fait le tour des médias depuis vendredi, c'était un couac du gouvernement, puisque Matignon vient de trancher.
Oui, tout à fait. Rappelons rapidement les épisodes. Nos confrères de RMC publient un document de travail du ministère de l'Agriculture envisageant l'autorisation à nouveau partielle des néonicotinoïdes, ce que confirme plus ou moins le nouveau ministre de l'Agriculture, monsieur Stéphane Travert, ce matin. Levée de bouclier très rapide oui. Des écologistes, par exemple avec Génération Future et François Veillerette que nous avions la semaine dernière à ce micro, et puis aussi des politiques, les écologistes, le parti de gauche, Delphine Matteau. Donc au final, en fin de matinée, Matignon publie un communiqué. On ne reviendra pas sur les dispositions de la loi de 2016. En effet, la loi sur la biodiversité adoptée en 2016 prévoyait l'interdiction des néonicotinoïdes avec quelques dérogations jusqu'en 2020. Mmh. Donc, coup d'alerte, retour en arrière heureux, mais la partie n'est cependant pas gagné pour les abeilles, d'abord parce que le moratoire européen lui-même est très incomplet, d'autre part il y a quelques dérogations possibles jusqu'en 2020, et puis c'est dans un contexte, et Henri Clément va l'expliquer très bien, où les abeilles vont très mal dans le monde, c'est quasiment des espèces en voie de disparition, il y en a environ 2000, des abeilles domestiques et des abeilles sauvages, et en 2016, en France, on a connu une année exceptionnelle par sa faible production de miel, les abeilles vont mal.
Alors, Henri Clément, pour rester un petit peu sur ce qui s'est passé depuis vendredi, est-ce que vous avez eu vous-même des explications, des contacts avec le gouvernement au sujet de ce couac ?
C'est-à-dire que nous, on a été très surpris par le couac parce que jeudi, nous étions en rendez-vous au cabinet de Nicolas Hulot et on leur a posé la question sur la suite de la loi biodiversité. Ils nous ont confirmé que le gouvernement français serait sur une position très ferme sur les néonicotinoïdes. Et donc, quand on a su ce qui se tramait, on a été quand même très inquiets. Mais on a vu assez rapidement, effectivement, comme le disait Hervé Kev, qui ça a été un couac. Mais c'est pas très étonnant. Hein. C'est le lobby des firmes et des agriculteurs, je dirais, productivistes, pas tous heureusement, mais des agriculteurs productivistes, qui est monté au créneau pour essayer de revenir sur ces lois sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. Quoi.
Alors, l'un des arguments avancés dans le document, c'était de suivre la législation européenne. Quelle est-elle au sujet des néonicotinoïdes aujourd'hui ?
Ah, mais là, c'était totalement faux, parce que le gouvernement avait dit qu'il ne fallait pas indiquer que c'était l'Europe qui était responsable de tous nos maux, et heureusement qu'on a la directive européenne, et donc ce n'était pas en opposition la réglementation française avec la réglementation européenne. Ça, c'était un prétexte pour revenir en arrière. Et donc, on peut maintenant espérer que la Commission va adopter une nouvelle disposition concernant les néonicotinoïdes. Je sais qu'une des propositions, c'est qu'on interdise les néonicotinoïdes sur l'ensemble des applications uniquement autorisées par dérogation dans les serres. Ça, ce serait un progrès, parce qu'on voit bien que depuis 20 ans, cette famille de pesticides est extrêmement dangereuse pour les abeilles, extrêmement toxique pour les abeilles, et également pour la biodiversité, les insectes, l'eau, les organismes du sol. C'est une véritable plaie pour notre environnement.
Mais quelle est la situation concrètement des abeilles domestiques en France en 2017? Est-ce que vous voyez une amélioration?
Non, on voit pas d'amélioration, parce qu'en plus, ce qui est paradoxal, c'est que depuis 2014, que le moratoire par la Commission de Bruxelles a été pris concernant 4 néonicotinoïdes sur des plantes visitées par les abeilles, on aurait pu s'attendre à une baisse de l'utilisation des néonicotinoïdes, et on a eu toutes les peines du monde à avoir les chiffres du ministère de l'Agriculture, et en réalité, malgré le moratoire, l'utilisation des néonicotinoïdes a continué à augmenter sur notre territoire.
Hervé Kempf.
Il y a d'autres menaces sur les abeilles que les néonicotinoïdes, ces pesticides. Est-ce que, par exemple, la canicule et le changement climatique sont aussi des facteurs qui affaiblissent ces populations?
C'est pour vous, Henri Clément, la question.
Ah, d'accord. Je croyais qu'elle s'adressait à Hervé Kempf, c'est pour ça.
Non, parce que c'est lui qui l'a posé.
Effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, dans les causes des surmortalités d'abeilles, puisque je vous rappelle qu'on est passé de 5% à 30% en moyenne par an en France, aux États-Unis c'est 50%, 51%, donc ce sont des chiffres qui sont extrêmement alarmants. Parmi les causes, donc, il y a effectivement les pesticides et pas que les néonicotinoïdes, il y a l'évolution de l'agriculture qui est défavorable aux abeilles et aux pollinisateurs dans leur ensemble, avec la monoculture, avec la suppression des haies, avec la disparition de la grande diversité culturelle qu'on avait par le passé, le sainfoin, le trèfle, la luzerne, les féveroles, etc., les prairies naturelles. Mais il y a aussi des prédateurs comme le varroa ou comme le frelon asiatique. Mais au-delà, effectivement, il y a le problème du bouleversement climatique et des effets du bouleversement climatique. Mais... Et c'est vrai que l'abeille est une formidable sentinelle de l'environnement, c'est un de notre programme, c'est l'apiculteur aussi est une sentinelle. Et nous, sur le terrain, depuis 2003-2004, effectivement, on ressent les effets de ce bouleversement climatique sur les colonies d'abeilles et sur les productions de miel.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voyez au quotidien ?
C'est-à-dire qu'en fait, les saisons ont été chamboulées. On voit des sorties d'hiver qui sont très précoces, très douces. Et donc, les colonies d'abeilles démarrent prématurément. Donc, la colonie se redéveloppe. Et puis, comme on l'a vu encore cette année, au mois d'avril, mai, on a des périodes de gelée, on a des périodes de mauvais temps. Et donc, les fleurs sont gelées. Nous, même dans les Cévennes, on a eu des châtaigniers qui étaient gelés cette année. Et donc, les abeilles souffrent durant cette période, puisque ce n'est pas un développement naturel et équilibré. Et ensuite, on a, comme on le voit hélas encore cette année, des canicules, c'est-à-dire qu'on a des températures très fortes qui brûlent les fleurs et donc les empêchent de produire du nectar qui soit butinable par les abeilles. Et à cela s'ajoutent aussi des longues périodes de vent du nord qui, elles aussi, assèchent les fleurs. Tout cela fait que ces bouleversements climatiques ont un effet sur la production de miel, au-delà des raisons structurelles la difficulté de l'apiculture française s'ajoutent ces bouleversements climatiques. Et comme l'a dit Hervé Kempf, l'année 2016 a été la pire, puisqu'on a produit moins de 10 000 tonnes. Il y a 20 ans, on en produisait 32-33 000 tonnes. Et par ailleurs, cela peut aussi avoir une incidence sur la vitalité des colonies. Moi, je me rappelle, en 2004, dans les Cévennes, on a eu une période de vent du Nord qui a duré 2 mois. Et donc, on n'a pas fait de miel. Mais non seulement on n'a pas fait de miel, mais comme les abeilles ne trouvaient plus de pollen et de nectar, la reine avait stoppé sa pompe. Il n'y avait plus ce phénomène de renouvellement régulier des générations d'abeilles. Vous savez que dans une ruche, les abeilles se renouvellent très régulièrement et très rapidement. Mmh. Et donc, il y avait un vieillissement prématuré des populations. Et cela s'est terminé par des disparitions de colonies à des saisons qu'on ne voyait pas, c'est-à-dire en septembre, octobre, novembre, parce que le renouvellement des populations n'était pas là.
Henri Clément, est-ce qu'à moyen terme, vous pensez qu'on va être obligé en France, par exemple, d'engager des humains pour la pollinisation, pour faire ce travail que, pour l'instant, font les abeilles ?
Ah ben je ne l'espère pas, parce que si on en arrive là, non mais attendez, si on en arrive là, c'est déjà le cas en Chine, vous avez sur le National Geographic, vos auditeurs peuvent le voir, c'est très très bien fait, ça dure 3 minutes, ça s'appelle le silence des abeilles, et on voit effectivement dans la province du Sichuan, les enfants, parce qu'ils sont beaucoup plus légers que les adultes, qui vont polliniser fleur après fleur, les fleurs de poirier. Bon, écoutez, on sait aujourd'hui qu'il y a des études pour remplacer les abeilles par des micro-drones, mais je ne vois pas comment ces micro-drones, éventuellement, ils pourraient sur les vergers, mais la biodiversité sauvage, ça n'est absolument pas envisageable. Et quelque part, ce serait une démission de l'être humain par rapport à son environnement qui serait redoutable, vous vous rendez compte ?
Alors, on s'en rend bien compte, mais par rapport à la situation, on peut tout à fait imaginer ce scénario. Hein, les populations d'abeilles chuter à ce point.
Ben, vous savez, il y a une étude allemande qui vient de sortir sur la biomasse des insectes et ils se sont rendu compte qu'à quelques années, 80% de la biomasse des insectes a disparu en Allemagne. Mmh. Donc c'est quand même extrêmement préoccupant.
Absolument.
Et c'est pour cela que compte tenu de la prise de conscience de nos concitoyens, on l'a vu encore ces derniers jours dans le cadre de nos apides, des élus de terrain et de l'ensemble de la population, il faut espérer que le gouvernement et le courage de prendre les mesures qui s'imposent pour sauvegarder les abeilles. Parce que les abeilles, vous l'avez tous bien compris, ce n'est pas simplement le miel, le pollen ou la propolis, mais c'est la pollinisation, c'est notre alimentation. Et l'abeille pose des questions essentielles. Quel environnement, quelle agriculture, quelle alimentation, quel lien entre l'homme et la nature?
Une toute petite question pour terminer. Est-ce que tout ce qu'on dit depuis le début de cette interview est valable pour les abeilles sauvages?
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on a des gens, vous savez, qui essaient de défendre les pesticides en disant « mais c'est pas la faute des pesticides, c'est la faute des apiculteurs, c'est la faute du varroa ». Et on s'aperçoit bien qu'il y a un déclin des populations de pollinisateurs qui est dramatique et qui est même pire que celle des apiculteurs. Et donc, ce n'est là, dans ces cas-là, ce n'est ni la faute des apiculteurs ni du varroa. Et puis je dirais même…
Très vite, Henri Clément, ouais.
Très vite, si les apiculteurs ne renouvelaient pas leurs ruches, ne reconstituaient pas leurs cheptels, eh bien aujourd'hui, on serait déjà en pénurie d'abeilles sur le territoire national et dans les autres pays du monde où il y a cette agriculture intensive.
Merci à vous. Vous êtes le porte-parole de l'Union nationale des apiculteurs de France. Hervé Kempf, sujet à retrouver demain sur reporter.net. Et donc, Matignon, qui vient de trancher.
Et donc, les néonicotinoïdes restent interdit en France, selon les termes de la loi de 2016.
Merci beaucoup, Axel. À demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, apporter du savon aux populations en détresse sanitaire. Une étude menée par l'UNICEF dans 51 pays en voie de développement ou peu développés montre que l'accès à l'hygiène et à l'eau est encore très compliqué pour les populations. En Éthiopie, seuls 0,1% de la population possède du savon à la maison. 21% au Sénégal, 37% au Swaziland. L'eau n'est donc pas toujours le seul élément manquant pour une hygiène de base. L'UNICEF estime qu'un lavage de mains quotidien pourrait permettre d'éviter la mort de 6 millions de personnes par an, dont 2 millions d'enfants. Les poissons s'éloignent des tropiques au rythme de 50 km tous les 10 ans. Cette conséquence du réchauffement climatique est maintenant estimée par les experts de la biodiversité et de la pêche, une migration qui s'effectue pour presque toutes les espèces marines de l'équateur vers les pôles et qui complique les bilans de pêche et le calcul de quotas, car la mesure d'une espèce dans une zone donnée en particulier doit prendre en compte à la fois l'impact de la pêche et les migrations. Les experts interrogés par le journal The Guardian se disent de plus en plus soucieux du devenir de certaines espèces en particulier qui sont déjà en danger dans leur zone d'habitation. habitat et qui pourraient migrer vers des zones fortement pêchées. Et puis effacer la mémoire des escargots de mer pour soigner les humains. Un groupe de chercheurs new-yorkais vient de démontrer qu'il était possible d'effacer certains souvenirs associés à des symptômes post-traumatiques sans causer de dommages aux neurones. Ce travail réalisé sur des neurones d'escargots de mer est une première. Les chercheurs ont réussi à l'aide d'un médicament à détruire une partie seulement d'un souvenir associé à un stress sans effacer pour autant l'ensemble de la connexion synaptique, c'est-à-dire la mémoire elle-même. Un espoir très expérimental de traitement des phobies ou de l'anxiété liées à des événements passés et traumatisants. Et nous parlons de population et de génétique des populations dans un instant. Sinkan à l'instant.
La tête carrée. Sur France Inter.
On s'intéresse à une science, celle de la génétique des populations. C'est le sujet de notre tête au carré cet après-midi avec vous, Evelyne Heyer et Louise Quintana-Murci. Evelyne Heyer, vous êtes professeure d'anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous êtes commissaire de cette exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme » qui est à voir jusqu'au 8 janvier au Musée de l'Homme à Paris. Et puis Louise Quintana-Murci, vous êtes généticien des populations, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'Institut Pasteur. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé, l'attaque. Evelyne Heyer, vous travaillez donc sur l'anthropologie génétique. Est-ce qu'avec Louis Quintana-Merci, vous travaillez exactement sur les mêmes thématiques ou vous avez quelques singularités à nous signaler?
On a quelques singularités dans le sens où moi, je fais beaucoup de terrain. J'aime beaucoup aller sur le terrain pour comprendre l'anthropologie génétique a pour but de comprendre la diversité humaine et l'histoire évolutive de l'homme. Et c'est vrai que moi, j'ai une partie terrain dans différents endroits du monde, en Asie centrale et en Afrique centrale, que fait moins mon collègue Louis Quintana, qui par contre fait beaucoup plus de choses plus techniques au laboratoire que moi je ne sais pas du tout faire.
Bon, vous êtes d'accord avec ça, Louis Quintana, merci.
Absolument, mon laboratoire vit en grande partie grâce au travail de terrain du Musée de l'Homme, ce qui nous a permis aussi de pouvoir aborder et avoir le temps d'aborder d'autres questions qu'on n'aurait pas eu le temps sinon sur l'adaptation à l'environnement pathogénique et l'immunité en gros.
Ouais. Alors justement, vous allez dans certaines parties du monde, Evelyne Heyer, pour quelles raisons est-ce que c'est plus intéressant d'aller dans tel endroit pour étudier la génétique des populations?
En fait, moi, ma question, c'est en quoi la culture, le fait qu'on ait des modes de vie différents, va jouer sur l'évolution de l'homme. Donc je choisis des terrains où il y a des populations qui vivent dans le même environnement, mais qui ont des cultures différentes. Donc en Asie centrale, vous avez des éleveurs nomades et à côté de ça, des agriculteurs. Et en Afrique centrale, vous avez des chasseurs-cueilleurs, les pygmées. Et à côté de ça, vous avez des agriculteurs. Et à partir de là, on est entre guillemets dans un dispositif expérimental naturel qui permet, en comparant ces différentes populations, de comprendre en quoi les différences de mode de vie ont pu jouer sur l'évolution de ces populations.
Louis Quintana, merci.
Donc en gros, de notre côté, ma question serait comment on peut disséquer le passé génétique des populations à partir des populations actuelles, bien sûr, mais pour comprendre comment ces populations se sont adaptées au changement d'environnement, que ça soit climatique, nutritionnel et surtout pathogénique, et essayer de comprendre quelque part le passé pour comprendre le présent. Et pourquoi pas, à partir de ce que l'évolution a fait à notre place, c'est-à-dire l'expérimentation la plus naturelle, par définition, qui existe, pouvoir envisager ce qui va arriver avec les changements d'environnement futurs.
Ouais. Quand vous dites pathogénique, c'est-à-dire que les maladies vous
les
intéressent,
maladies infectieuses,
les maladies anciennes aussi, pour comprendre celles d'aujourd'hui?
C'est-à-dire, à travers l'étude de l'ADN actuel, n'oublions pas que nous ne sommes pas autre chose que les descendants de ceux qui ont survécu plein de maladies infectieuses, la peste, la grippe espagnole et d'autres. Donc quelque part, cette résistance passée laisse des signatures moléculaires dans les génomes actuels que nous pouvons utiliser pour identifier les gènes qui ont joué un rôle majeur pour la résistance contre les maladies infectieuses et donc qui joueraient un rôle majeur toujours aujourd'hui pour mieux survivre les pathogènes.
Ouais. Donc l'étudier, ça permet aussi de pouvoir envisager des stratégies pour contrer certaines maladies aujourd'hui?
C'est-à-dire disséquer tous les facteurs génétiques et non génétiques, mode de vie, culture, etc., impliqués dans nos différences de réponse immunitaire et donc notre potentielle résistance aux maladies infectieuses, c'est déjà le premier pas majeur que la génétique humaine et la génétique des populations offrent pour une médecine personnalisée, une médecine de précision.
Evelyne Heyer, puisque vous, c'est la culture qui vous intéresse beaucoup entre autres.
Oui.
Entre autres, la biologie, alors, elle a aussi sa part ou pas dans vos travaux de recherche? Parce qu'on comprend quand même que la génétique, la biologie, ça joue énormément sur
parce
les transformations.
Que, par exemple, on regarde un des traits culturels qu'on transmet beaucoup, c'est les traditions alimentaires en général, sauf dans les changements récents. On a tendance à manger comme nos parents, comme nos grands-parents, etc. Et on voit bien dans les populations comment les populations se sont adaptées génétiquement à des alimentations différentes.
Mais là, il y a de la culture et du biologique, pour le coup, au travers de l'aliment. On a les deux.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la culture va laisser un imprinting, va laisser une trace dans la génétique. C'est pas la culture en général, c'est vraiment dans quelle mesure le fait qu'on transmette non seulement des gènes, mais aussi de la culture, ça a pu jouer sur notre évolution. Et donc, on le regarde en regardant en quoi la culture joue sur la diversité génétique des populations.
Ouais. Alors, il y a une question là qui est arrivée sur franceinter.fr, c'est Catherine, au sujet de la couleur de peau. Quand on parle des différences dans les couleurs de peau des êtres humains, on explique toujours que la peau noire a pour origine la mélanine qui sert à protéger de la brûlure du soleil. Mais quid des peaux jaunes et des traits génétiques des populations asiatique, par exemple. Alors, vous allez répondre tous les deux, Evelyne Heyer.
Ouais, on a tous de la mélanine, hein, c'est pas une particularité de la peau noire. Ce qui change, c'est la dose, enfin, combien on a de mélanine, et il y a deux types de mélanine. Mm-hmm. Mais ce qui se passe, c'est que quand l'homme est sorti d'Afrique il y a environ 100 000 ans, 70 000, 100 000 ans, il s'est adapté à des nouveaux environnements, et des environnements où il y a moins de soleil, et il se trouve que le soleil est important pour permettre l'assimilation de la vitamine D, et entre guillemets, pour mieux capter les rayons du soleil, les individus qui avaient une couleur de peau plus claire étaient avantagés. Donc on voit de la sélection, plus on va vers le nord, avec des couleurs de peau plus claires en Europe et en Asie.
Louis Quintana, merci. Complément de réponse sur les peaux jaunes.
Sur les peaux jaunes, je ne sais pas trop, mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a cette perte de pigmentation. Mais sur la peau jaune ou autre chose, n'oublions pas qu'il y a certains traits phénotypiques des populations humaines qui n'ont pas été sélectionnés eux-mêmes, mais qui font partie du résultat de ce qu'on appelle la pléiotropie, c'est-à-dire un gène qui fait plusieurs fonctions, mm-hmm. et peut-être c'est la fonction suer un peu moins, perdre un peu moins d'eau, que le même gène est impliqué dans la peau jaune, par exemple, dans le cas où je parle, c'est dans l'épaisseur des cheveux chez les Asiatiques. Donc il y a certains traits caractéristiques qui ne sont pas sélectionnés eux-mêmes, mais sont que le résultat de ce qu'on appelle l'autostop génétique.
L'autostop génétique, tiens.
Oui, c'est une façon
de
dire.
C'est amusant comme expression, oui. Ça veut dire quoi alors exactement?
Non, c'est un terme en génétique des populations que d'ailleurs s'applique à d'autres choses. Ça serait plutôt l'autostop phénotypique, c'est-à-dire vous sélectionnez un trait, par exemple, mieux résister dans le froid du nord de l'Asie, et avec ce trait, comme le même gène a une autre fonction, vous allez sélectionner aussi l'épaisseur des cheveux plus épais, par exemple.
On va écouter l'extrait d'un documentaire qui faisait partie d'une série de clips dans les années 90, justement sur la génétique des populations.
La ressemblance est parfaite. Voyons les marqueurs. C'est pas possible. Ces deux jeunes filles paraissent identiques, mais leur ressemblance cache des marqueurs qui, eux, sont différents. Oh, tant pis, j'abandonne.
Alors, brave serviteur, où sont donc ces humains en tout point semblables?
Mais j'ai dû me rendre à l'évidence. Oh, Jupiter, ils sont tous différents.
Je le savais bien. Le polymorphisme génétique humain est immense. Il y a plus de combinaisons possibles entre toutes les formes de gènes qu'il n'y a d'hommes sur Terre. On ne peut pas trouver deux êtres humains identiques sur le plan génétique. Eh oui, ma chère déesse, c'est la diversité qui fait la richesse de cette humanité.
Personne n'est identique du point de vue génétique, Louis Quintana, merci.
Oui, vous disiez que ça c'était une pub des années 80.
C'était une série de clips des années 90 qui a été réalisée par l'INSERM.
Je le trouve extrêmement moderne. Par rapport à beaucoup de choses qu'on entendait aux années 80 ou 90, que c'était très jacobin, ouais, républicain, on est tous pareils, je trouve que ce clip était extrêmement moderne et c'était une allégorie à la diversité. Et il y a la vérité d'ailleurs.
Tout à fait. La seule chose nouvelle, c'est qu'on a mieux quantifié cette diversité en lisant le génome au complet. On sait qu'on est tous identiques à 99,9%, mais qu'on est aussi tous différents les uns des autres. Et c'est même récent, on a même trouvé que les vrais jumeaux avaient des petites différences.
Ouais. Le séquençage du génome humain, donc c'est 2001, ça a complètement bouleversé la façon de faire de la science dans ce domaine-là, Evelyne Heyer.
Tout à fait, parce qu'en fait, avant, on comparait les populations entre elles, et là, on arrive un niveau de précision où on peut comparer les individus entre eux. Ouais. Donc ça a vraiment permis de mieux comprendre et d'affiner beaucoup de questions. Et notamment moi, pour ce qui m'intéresse à la culture, ça a permis vraiment des très grandes avancées pour mieux comprendre tous les impacts que la culture peut avoir sur la diversité génétique qu'on ne pouvait pas faire avant.
Mais c'est ça, on pouvait faire quand même de la génétique des populations avant cette date, Louis Quintana, merci ou pas?
Oui, on pouvait la faire sur d'autres systèmes génétiques ou des petits morceaux du génome, ou ce qu'on appelait la digestion de l'ADN, ou des groupes sanguins, mais c'est clair que 2000 ans marque le début de la génomique, mais en aucun cas ça nous a donné accès à ce qu'on utilise, que ça soit Evelyne ou moi ou d'autres laboratoires, en génétique des populations. C'est la diversité. 2000 ans, c'est la séquence de l'ADN. Oui. Mais on n'est pas des clones. On a tous de la diversité et c'est après qu'il y a eu différents consortiums internationaux qui avaient comme but principal de découvrir cette diversité, dont par exemple le consortium 1000 génomes, que c'est 1000 génomes de différents individus et populations du monde.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion sur la génétique des populations avec les messages des auditeurs franceinter.fr. Et on se retrouve après Babix et Archie Shep.
Maya s'endort sous les mandes d'araignées. Maya s'endort sous les mandaraignées. Dans le vent brûlé, là où poussaient les roses, là où poussaient les roses. Maya se repose. Omaya s'endort sous le mandarinier. Omaya s'endort sous les mandariniers. Dans les vents brûlés, elle seule sait que bientôt repousseront les roses, repousseront. Omaya repose sous le mandarinier. Omaya repose sous le mandarinier. Sans peur repose. Une tache au cœur comme une tache au cœur comme un bouton de rose, un bouton de rose.
Babix et Archie Shep à l'instant sur France Inter pour parler de la génétique des populations avec mes invités Evelyne Heyer et Louis Quintana Merci. Vous me disiez, Louis Quintana Merci, hors antenne, dans les années 80, votre discipline était complètement ringarde. C'est vrai?
Oui, je dirais pas ringard, mais en tout cas...
Ah ben, les... vous l'avez dit.
Oui, je l'ai dit, oui. Mais pas que je le pensais. C'est-à-dire que moi, à la fin des années 80, début des années 90, quand j'ai commencé ce métier, toutes mes collègues étaient plutôt branchés, HIV, cancer, etc. Dans la génétique des populations, on était très très peu. Et mais la bonne chose, c'est qu'on était habitué depuis très longtemps à travailler avec beaucoup de données, même si c'était pas à l'échelle des génomes.
Ouais.
Donc du coup, la génétique des populations est redevenue une discipline vraiment indispensable dans le cadre de la génétique médicale, parce que nous avions les méthodes et le savoir-faire des analyses des données.
Evelyne Heyer, on parlait d'archéologie tout à l'heure. Ce qu'il faut dire vraiment avec cette discipline, c'est que ça éclaire d'une façon complètement nouvelle, au fond, l'histoire humaine aussi.
Ah ben, complètement. Parce que qu'en plus, on est arrivé maintenant, avec les données génétiques, à mettre du temps. C'est-à-dire, avant, on disait cette population est plus près de celle-là, elle est un peu plus éloignée. Et maintenant, on arrive à dire, voilà, elle est plus loin parce que ces populations se sont séparées il y a tant d'années, ont échangé tant de migrants. Donc, il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, qu'on arrive vraiment à mettre du temps, donc à retracer vraiment des scénarios d'histoire. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a pu montrer à peu près de quand datait la sortie d'Afrique d'Homo sapiens, les mélanges avec Néandertal, etc.
Ouais, ça veut dire qu'on peut aller très très loin dans l'histoire des premiers hommes?
Oui, en fait, on peut remonter jusqu'à, on peut comparer avec les chimpanzés, on peut comparer pour certains gènes même avec des espèces plus éloignées. En fait, selon la fenêtre de temps qu'on veut analyser, on va choisir différents types de marqueurs qu'il y a dans le génome. Mais donc, on peut analyser des différences. Il y a 10 générations, tout simplement, entre deux villages. Aussi bien qu'on peut analyser les différences avec le chimpanzé il y a 7 millions d'années.
Mais votre base de travail, c'est l'ADN aussi ou pas?
Tout à fait, ouais, c'est toujours les séquences d'ADN.
Mais plus on va loin dans l'histoire, et plus c'est compliqué de trouver de l'ADN encore disponible.
Ah non, parce que nous, on compare l'actuel. En comparant des chimpanzés actuels et des hommes actuels, on peut raconter l'histoire évolutive des hommes et des chimpanzés. En comparant des hommes d'un village et du village d'à côté, on peut raconter l'histoire de leurs ancêtres sur 10 ou 20 générations.
Ouais. C'est comme quand on étudie l'univers, au fond, les origines de l'univers. C'est avec ce qu'on voit aujourd'hui, finalement, qu'on arrive à étudier le passé.
Hein. Voilà, avec en plus, bien sûr, l'arrivée de l'ADN ancien, il y a environ une dizaine d'années.
Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'arrivée de l'ADN ancien, il y a une dizaine d'années?
Eh bien, ils sont arrivés, l'équipe essentiellement du Max Planck, puis d'autres après, sont arrivés à extraire l'ADN de restes fossiles qui dataient d'environ 50 000 ans. Donc ça a permis d'apporter plein de nouvelles informations, comme le mélange de Homo sapiens avec l'homme de Néandertal au moment où Sapiens sort d'Afrique.
Alors voilà, ça c'est aussi une des grandes réponses grâce à la génétique des populations. C'est toute la question des métissages. Alors Louis Quintana, merci. Hein. On peut vraiment éclairer les choses aussi.
Oui, c'est grâce à toutes ces études de l'ADN ancien, de l'homme de Néandertal, de l'homme de Denisova, en gros un cousin asiatique de Néandertal, qu'à partir de ces données génétiques, on peut regarder si nos génomes actuels, dans quelle mesure ils ont des morceaux d'ADN qui a survécu Néandertal. C'est-à-dire nous-mêmes, nous avons de Néandertal à différents degrés, en gros en Europe environ 2-3%. Mais ça, c'est en moyenne du génome. Ça ne veut pas dire que tout notre génome a du 2-3% de Néandertal. Ah. Vous pouvez marcher tout au long du génome et voir qu'il y a des régions du génome qui présentent des taux de néandertalitude, si on peut dire ainsi, de 60%.
Alors, parlez-nous concrètement. Ça veut dire quoi, ça, ce que vous êtes en train de décrire là, précisément? Le fait que nous ayons certains gènes issus de Néandertal et pas d'autres. Ça s'exprime comment, alors? Dans certaines pathologies, par exemple?
Ben voilà, c'est ce qu'ils ont étudié au laboratoire de Louis. Un truc super.
Alors?
Donc, en gros, ce qu'on savait déjà, c'est que la plupart de nos gènes, ça c'est les équipes de David Reich et de Svante Paabo, qu'ils avaient montré que la plupart de nos gènes en purgeaient des gènes de Néandertal. C'est-à-dire, on s'est mélangé, il y a 40-50 000 ans, mais notre génome n'acceptait pas la rentrée d'un nos gènes de Néandertal. Cependant, pour certains gènes, pas seulement cette néandertalitude, si je peux dire, a été tolérée, mais elle a été même avantagée. Mm-hmm. Et on trouve certains gènes du système immunitaire inné, c'est-à-dire notre première ligne de défense contre les pathogènes, que pas seulement il a toléré ces allèles, ces mutations, ces variants génétiques d'origine néandertale, mais il les a avantagés. Parce que ces allèles de Néandertal nous ont permis, par exemple, de mieux survivre certaines épidémies au passé.
Pourquoi dans certains cas il y aurait eu cette purge dont vous parlez alors de l'ADN néandertalien alors?
On ne sait pas très bien, on voit surtout que cette purge se fait à niveau des gènes qui sont dans le chromosome X et des gènes qui sont exprimés dans les testicules. L'hypothèse derrière, Evelyne peut compléter peut-être, c'est une stérilité des mâles hybrides.
En fait, c'est l'idée, c'est que quand même on a été séparés pendant environ 700 000 ans, Homo sapiens et Néandertal, et donc on est quand même assez éloignés pour que en fait on soit en début vraiment de spéciation. D'accord. Et finalement
donc
les croisements marchent pas bien.
Il y a un rejet naturel
Il y a un rejet naturel qui se fait. Quand les espèces sont éloignées, il y a un moment où on peut plus vraiment se croiser. Ouais. Et là, on devait être à la limite. On pouvait encore un peu se croiser, mais ça marchait pas très bien.
C'était comme des corps étrangers, on pourrait presque dire cette façon.
Hein. Oui.
Ouais. Et ça fait l'objet d'une publication récente dont on a peu entendu parler, parce que c'est arrivé en même temps que les fossiles de Jean-Jacques Hublin sur Homo sapiens, fossiles de 300 000 ans. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était très intéressant d'aborder cette question de la purge entre guillemets, hein, évidemment. Au sujet de la diversité génétique, il y a cette question de Jean-Paul qui demande si la consanguinité est un handicap pour une espèce. Louise Quintana, merci.
Est-ce que c'est un handicap? Ça dépend. Ça dépend de quel type de consanguinité.
On vantait la diversité tout à l'heure dans l'extrait qu'on entendait, la diversité
en général,
génétique.
Sur le papier, là, évidemment, le métissage, la diversité, l'avantage de la diversité est plutôt favorable. On voit pour certaines situations culturelles ou d'histoire démographique, comme les Québécois, Evelyne a travaillé énormément sur ça, et cette descente, cette manque de diversité amène à un taux plus important de certaines maladies génétiques, par exemple.
Evelyne, hier.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, la consanguinité proche fait que vous allez recevoir à la fois par votre père et par votre mère des gènes qui ont besoin d'être en deux copies pour s'exprimer, et c'est le cas notamment de gènes impliqués dans les maladies. Donc c'est pour ça que quand il y a de la consanguinité proche, on a en fait plus une probabilité plus élevée d'avoir certaines maladies, ou sinon les gens sont juste porteurs sains parce qu'ils n'ont qu'une copie du gène, ils n'en ont pas deux, donc ils ne sont pas malades, mais quand il y a de la consanguinité, on voit quelque part ces maladies s'exprimer.
Extrait d'un documentaire L'ADN, nos ancêtres et nous sommes tous des Africains, c'était diffusé sur Arte.
À Helsinki, en Finlande, l'équipe d'Antti Saijantila étudie la génétique des populations actuelles en collaboration avec des laboratoires du monde entier. Le décryptage d'une partie de notre ADN et la définition de groupes d'appartenance lui permet de constater que d'infimes traces des gènes de ces chasseurs-cueilleurs nous sont parvenues. On peut même, en pistant ces traces à travers l'Europe, remonter les voies empruntées par nos lointains ancêtres voici 10 000 ans. De fines mutations sont inscrites sur notre ADN. Autant de marqueurs, de repères grâce auxquels on peut suivre les migrations du passé pour les relier au présent. Certaines de ces mutations, indéniablement, sont issues de nos populations de chasseurs-cueilleurs. D'autres, cependant, semblent indiquer des apports extérieurs plus tardifs. De nouvelles immigrations auraient donc eu lieu en Europe ?
Voilà, ça c'est une façon de voir hein, justement cette discipline.
Hein, tout à fait.
Au travers des mutations.
Oui, en fait on regarde des mutations ou des associations de mutations et avec ça on retrace l'histoire des populations. Et nous on est une espèce où vraiment on a une histoire de migration très dense. Il y a toujours eu plein de migrations, les isolats génétiques n'existent pas. Et donc l'idée c'est de retrouver à partir des données génétiques un peu toutes ces couches superposées de migrations. Et par exemple, en Europe et en Asie centrale où je travaille, c'est particulièrement compliqué. On a beaucoup de migrations dans tous les sens, à différentes périodes, etc. Mais la plus grande migration, c'est la sortie d'Afrique entre 70 000 et 100 000 ans.
On parlera de l'exemple des Bantous que vous avez largement étudié. Louise Quintana, merci. Ce sera dans un instant pour la dernière partie de notre discussion.
But if you want to hear some more about what happened back at door, listen, alien in the barnyard. Come along and watch the alien in the barnyard. Hallelujah, alien in the barnyard. If you want to hear something, come and hear me to sing about the alien in the barnyard. If you want to bomb for a job, why am I going to charge you only $2? With his right hand on the go and a candle burning low, that is alien. Well fit, for she said the girl dressed too sweet. Mama say you bring a cup and a white calico frock for the healing in the bomb yard. Come along and watch the healing in the bomb yard. Hallelujah. If you want to hear something, come and hear me to sing about the healing in the bomb yard. So him took her into a tent,
so content. If she did know how healing sweet every day, she would have do it. She loved the healing in the barnyard. Come along and watch the healing in the barnyard. To labor. If you want to hear something, come and hear me to sing about the healing in the barnyard. A woman want to hold down a man and want to do it as fast as she can. Mama say you bring a pole and some silver in a bowl and I will fix you in me barn yard. Hallelujah. Come my brother round. If you want to hear something, come and hear me da sing about the healing in the barn yard. A woman want to win pick a pole and want the mama to tell her how. Mama say you come tonight, but not rather bring no light. Come let me heal you.
Harold Richardson à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
On découvre la génétique des populations, cette science qui intéresse en particulier Evelyne Heyer et Louis Quintana. Merci mes invités, avec vos questions sur le site de l'émission et sur les réseaux sociaux. Il y a Tapal sur Twitter qui demande est-ce qu'il est possible de faire séquencer notre ADN facilement en tant que particulier.
En France, non, mais par contre, on peut envoyer dans différents endroits, notamment aux États-Unis.
Moyennant un petit chèque, hein,
évidemment. Moyennant un chèque non négligeable. Mm-hmm. Mais c'est pas vraiment le séquençage au complet, c'est des morceaux choisis de l'ADN qui sont regardés.
Et qui racontent quoi, alors?
Qui racontent l'histoire des populations, en fait, qui comparent l'ADN de l'individu avec des populations de référence à travers le monde, et à partir de là, qui permettent de dire, bah, cet individu, il a plutôt tel pourcentage qui correspond aux populations de tel endroit, tel autre à tel endroit.
Mm. Alors, on va écouter l'extrait d'une émission de télévision belge, justement, où c'est l'objet d'un jeu où on fait découvrir à des personnalités leurs origines via, justement, l'ADN.
Il y a le Moyen-Orient, Nord-Africain, ah, mais aussi, quand même, donc 80%, 15% européen, italien, mais che baratabiale.
Surprenant.
Ah ben oui.
Bah écoutez, je vous propose de regarder la deuxième page. On est remonté à 16 000 ans, c'est le côté maternel.
C'est ma maman.
Et je voudrais que vous regardiez les exemples de population.
Exemple de population, les Finns, les Samis, les Sardiniens et les Basques. Alors les Basques, je vois ce que c'est, mais le reste...
Je vous traduis ça. Finns, c'est finlandais.
Samis ? Ah oui, de Laponie.
Alors oui, ça peut paraître un peu étrange, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est simplement ces populations, les Finnois, donc les Basques, les Sardes, et aussi des populations qu'on va retrouver au Maroc, mais sud-ouest, donc juste en face des Canaries. Bien, en fait, ce sont des populations qui sont des populations assez anciennes et qui descendent plus directement des premiers hommes modernes du Paléolithique qui ont peuplé en partie l'Europe et en partie l'Afrique du Nord.
Voilà, ça fait partie de cette émission. On n'est pas des pigeons sur la télévision belge. Si on initiait une telle émission en France, Louis Quintana, merci. Est-ce que vous viendriez commenter les résultats des tests ADN ou au contraire, vous refuseriez?
Non, je trouve que c'est un peu de la science récréative. Elle n'a rien de mauvaise. Il faut parfois avoir un peu le niveau d'exactitude de ce qu'on nous raconte, mais il n'y a rien de mal, c'est un peu...
Mais ça fascine tout le monde, parce que les Afro-Américains sont très amateurs aussi, ça y est, des émissions à la télévision américaine, pareil. On donne les origines africaines aussi des Afro-Américains.
Ouais, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on compare avec des populations de référence. Donc le résultat qu'on vous donne, il dépend des populations de référence qu'il y a dans la masse de données. Et c'est vrai que, par exemple, là, pour les Afro-Américains, il y a des boîtes qui ont échantillonné un peu plus en Afrique pour arriver à dire à quelqu'un, non seulement vous venez d'Afrique, mais vous êtes plus proche de telle ou telle ou telle ou telle population. C'est vraiment moi, je trouve que c'est une belle manière aussi de faire comprendre que dans l'ADN, il y a quelque chose sur nos origines.
Ouais, et ça, évidemment, ça nous touche. Ouais.
Oui,
Oui, et c'est hyper important, par contre, la comparaison avec les populations de référence. Parce que ça peut donner...
C'est quoi une population de référence?
C'est-à-dire, on va étudier quelqu'un afro-américain, et on va lui dire son génome africain, quand c'est entre 70% et 80% de leur génome est d'origine africaine, plus ou moins d'où il vient. Mais il peut avoir des grandes erreurs dépendant de la population de référence. C'est-à-dire, on va regarder comment le génome de cette personne afro-américaine ressemble à différentes populations africaines dites de référence. Mmh. Or, nous, on a vu récemment que le fait de souvent utiliser la population Yoruba de Nigeria comme population de référence peut amener à des erreurs, comme par exemple de dire que tel gène impliqué dans la résistance au paludisme a été sélectionné chez les Afro-Américains. Dès que vous utilisez une collection beaucoup plus complète de populations de référence africaines, vous voyez que les histoires peuvent changer.
Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à ne pas croire tout ce que nous dit l'ADN ou à faire de mauvaises interprétations de ce que les biens nous dire.
Et il y a même des exemples de gens qui ont fait les tests et qui les ont refaits quelques années après et leurs origines avaient changé parce que, bien sûr, la base de données de la boîte qui faisait ça avait rajouté d'autres populations de référence. En général, les populations de référence, c'est quand on va sur le terrain, on échantillonne des gens qui ont leurs quatre grands-parents qui viennent du même endroit. Ça permet de se placer un peu à comment est la génétique au début du XXe siècle, avant les grandes migrations du XXe siècle. C'est pour ça qu'on les appelle populations de référence ou populations ancrées géographiquement.
Louis Quintana, merci, on en avait parlé à la Une de la Science, donc j'invite les auditeurs à réécouter cette une parce que vous étiez rentré dans les détails de cette étude sur le chemin migratoire des populations bantoues. Juste un mot pour y revenir, c'était important de l'étudier pour quelle raison alors, avec ces millions de locuteurs que sont les bantous?
Déjà parce que souvent, avec le laboratoire de Velin, on s'était concentré beaucoup sur les populations de pygmées, chasseurs-cueilleurs, et on utilisait les agriculteurs bantous juste comme population de comparaison. Mm-hmm. Donc du coup, mais les populations bantous-agriculteurs sont 300 millions de locuteurs aujourd'hui.
300 millions,
oui. Oui, donc en gros, à travers une étude de diversité de leur génome, on a pu montrer deux choses. De un, retracer l'histoire migratoire de ces populations avec à partir de leur foyer d'origine dans le Cameroun, Nigeria, vers toute l'Afrique subsaharienne et surtout montrer que tout au long de ces migrations, un, ils se sont mélangés, métissés avec les populations locales qu'ils ont retrouvées, les pygmées à l'ouest, les populations de pastoralistes à l'est, et surtout qu'à travers ce métissage, les bantous, ils ont acquis des variantes génétiques avantageuses pour leur survie, ce que souligne l'intérêt adaptatif par rapport à l'environnement du métissage.
Voilà, c'était une sorte d'éloge au métissage, à la diversité, justement, qui ressortait en tout cas en filigrane de cette étude. Evelyne Heyer, en ce moment, donc, au muséum, il faut aller voir l'exposition Nous et les autres, des préjugés au racisme. On a jusqu'au 8 janvier pour ça. Justement, votre discipline, la génétique des populations, là aussi, elle a donné des réponses à cette question du racisme?
Oui, alors elle en donne et elle en donne pas. Elle en donne parce qu'elle rappelle qu'on se ressemble tous beaucoup génétiquement, mais elle rappelle en même temps qu'on est tous différents les uns des autres. Donc elle explique la diversité. Elle explique la diversité génétique. Mais elle rappelle que le racisme, c'est la valeur morale qu'on va mettre sur cette diversité génétique. Et c'est pour ça que l'exposition, elle parle bien sûr des différences génétiques, mais elle parle aussi de tout ce qu'on connaît des sciences sociales autour de ce racisme et qui va construire la pensée qu'on peut avoir à un moment donné dans la société de ces différences.
Et ça, la culture, évidemment, joue beaucoup.
Eh oui, encore une fois, la culture.
Toujours la culture.
Oui. Toujours.
Alors, comment il faut comprendre les choses sur l'espèce humaine? C'est l'homogénéité ou au contraire l'extrême diversité? Alors, on prend quoi dans tout ça?
Ah, les deux, c'est-à-dire à la fois par rapport à d'autres espèces de grands singes, on est plus homogène génétiquement, mais néanmoins, on est tous différents les uns des autres. Donc c'est ça qui est fascinant, c'est cette articulation entre la proximité génétique et en même temps les différences génétiques. Et tout ça, c'est finalement notre histoire qui est le produit, qui produit à la fois cette similarité et cette différence.
Louis Quintana, merci. À la lumière de l'évolution, il y a beaucoup de hasard aussi dans cette évolution de l'espèce humaine?
Oui, je pense, c'est pas que moi, qu'il y a une grandissime partie de toute la diversité de notre génome, que c'est le fruit que du hasard, de ce qu'on appelle la dérive génétique, le résultat des migrations humaines. Après, il y a une partie non négligeable de non-hasard, c'est-à-dire de sélection naturelle, d'adaptation. Quelle est la partie la plus importante et la quantifier exactement? C'est un vieux débat absolument pas résolu.
Est-ce qu'il est nécessaire ce débat ou pas finalement?
Ah, je pense que oui, parce qu'il identifie déjà la partie de notre génome qui nous permet de mieux nous adapter à l'environnement, nous permet aussi d'identifier des gènes importants pour notre survie et des gènes dont le changement d'environnement pourrait donner lieu à une maladaptation. C'est-à-dire, c'est toujours le paradoxe entre sélection passée pour avantager quelque chose, mais avec changement d'environnement, maladaptation actuelle.
Merci beaucoup à tous les deux, Evelyne Heyer et Luis Quintana. Merci. Donc, cette exposition, Nous et les autres, des préjugés au racisme jusqu'au 8 janvier au Musée de l'Homme. Et puis, une belle histoire de l'homme que vous aviez publiée également chez Flammarion, Evelyne Heyer. Merci beaucoup d'être venu dans La Tête au Carré et nous en dire plus sur la génétique des populations.
Merci.
Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Villard.
Affaires sensibles avec vous. Le thème de ce lundi.
Alors on va danser, chanter, on va parler de Paris de la rive gauche.
On fait la fête.
50. Et on fait la fête toute la semaine d'ailleurs, avec différents types de musique adossées à différentes décennies. Voilà.
Ça sent les vacances. Hein.
Oui, ça sent les vacances. Enfin, ça fait partie aussi de notre culture, de notre passé, nos fondements. Et nous en parlerons avec notre invité Henri Gougaud, écrivain, poète, conteur, mais aussi chanteur. À l'époque, il a vécu ces nuits-là et il avait 20 ans.
À tout à l'heure.